Alors, on a une drôle d'image devant. Alors, un mouton avec une peau de loup par-dessus, c'est celui qui a triomphé de son chasseur et qui emporte fièrement la peau. Non, on aurait peut-être pu penser l'inverse aussi pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Il va être question de faux enseignements dans l'Église. Bon, un sujet dont on ne parle pas vraiment souvent, mais dont le Nouveau Testament parle souvent. Alors, on va regarder ça ensemble. Ce matin, on continue en Église. On est à notre troisième dimanche d'étudier la lettre de l'apôtre Paul à un de ses bons amis, un de ses fidèles collègues qui s'appelle Tite. Donc, on s'est dit qu'on commencerait une petite série pour l'automne en couvrant l'épître de Tite. On va faire 7 dimanches. On est dans notre troisième aujourd'hui. On termine le chapitre 1 de cette courte lettre de Paul à Tite. Donc, on a déjà mentionné au début que la lettre à Tite fait partie de ce qu'on appelle les épîtres pastorales, les lettres écrites aux pasteurs. Donc, il y a 1, 2 Timothée et Tite. Si vous êtes un peu moins familier avec la Bible, donc la Bible, c'est un livre de 66 livres divisé en deux grandes sections. L'Ancien Testament, que c'est essentiellement avant Jésus, et le Nouveau Testament, que c'est Jésus et après Jésus. Donc, on est dans le Nouveau Testament ce matin, dans le livre de Tite. Je vous invite à ouvrir votre Bible si vous l'avez. Alors, l'apôtre Paul, qui a été possiblement le plus grand missionnaire du christianisme, lui qui avait rencontré Jésus ressuscité sur la route de Damas, lui qui faisait mettre des chrétiens à mort avant, mais ensuite qui est devenu un qui était prêt à se faire mettre à mort pour Jésus. Une vie complètement transformée. Il a parcouru l'Empire romain presque au complet, mais pas au complet, mais il a voyagé un peu partout à travers l'Empire romain pour transmettre ce message que Jésus était le Messie attendu par les Juifs et qu'il était le sauveur de tous les hommes, pour tous ceux qui voudraient placer leur confiance en lui. Et Paul et son compatriote Tite étaient passés par l'île de Crète, une île importante au milieu de la Méditerranée. Paul avait dû sortir, mais Tite était resté et Paul lui avait laissé une mission de mettre des choses en ordre et il lui a écrit cette lettre à lui. Et par la providence de Dieu, cette lettre a été conservée, elle a été distribuée à travers les églises au début de l'ère chrétienne et elle a été inclue dans le corpus du Nouveau Testament. On a vu là que Dieu avait inspiré l'apôtre Paul pour transmettre la vérité de Dieu. Et la semaine passée, notre frère Ovidio nous partageait probablement on peut dire que Tite avait peut-être 2 ou 3 missions à faire en Crète. La première, c'était d'établir des anciens, des dirigeants, des leaders pour les églises de chacune des villes de Crète où il y avait des églises. Donc, on a vu quel genre de caractère est important, que bien plus que leur capacité oratoire ou leur connaissance ou leur habilité à débattre, ce qui est important pour les anciens, c'était leur caractère. C'était quel genre d'hommes ils étaient à la maison, dans la vie de tous les jours. Qu'ils ne soient pas des gens colériques, arrogants, violents, cupides, attirés par le gain, mais au contraire hospitaliers, amis du bien, réfléchis, justes, saints, maîtres de lui. Et au verset 9, il mentionnait « Attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Alors, les gens qui allaient devenir anciens devaient être des gens qui avaient un caractère pieux, qui honoraient le Seigneur par leur vie, mais qui étaient aussi capables d'enseigner. À ce point-ci, on avait juste l'Ancien Testament, mais d'enseigner l'Ancien Testament, comment ça menait vers Jésus. Et la foi que l'enseignement des apôtres, qui eux avaient vécu avec Jésus, les apôtres comme Paul, Pierre, Jean, Jacques, et bon, les 12 apôtres, et il y en avait quelques-uns en plus, mais qu'ils avaient vécu avec Jésus, Jésus les avait formés pour ça, pour le début de l'Église, et on a eu leurs écrits dans le Nouveau Testament. Alors, mais à n'importe quand qu'il y a un mouvement naissant, qu'il y a, une genre de révolution philosophique ou religieuse. Il y a toutes sortes de mouvements ou demi-mouvements qui se forment à travers ça. Puis, comment s'assurer, dans le fond, que les gens sont vraiment dans l'enseignement que Jésus avait laissé à ses apôtres et qu'ils ne sont pas en train de partir dans toutes sortes de tangentes autres qui sont en train d'inventer ou qui suivent un peu leurs propres désirs. C'est pour ça qu'il y avait besoin de gens qui suivaient l'enseignement des apôtres, qui venaient de Jésus avec l'autorité que Jésus leur avait donnée. Et qu'il allait avoir des contradicteurs, des gens qui allaient dire des choses qui, OK, non, ça, c'est pas en ligne avec ce que Jésus a enseigné. On doit recorriger le tir. Et vous allez voir que le langage que Paul utilise dans les prochains versets, donc le texte qu'on étudie ce matin dans Tite 1, les versets 10 à 16, il ne mange pas ses mots. Donc, il y a des gens dans les églises de Crète qui enseignaient d'autres choses que la saine doctrine, l'enseignement fidèle de l'Évangile que Jésus avait laissé à ses apôtres. Et Paul va dire à Tite, une de tes responsabilités et sa deuxième grande mission en Crète, c'était de corriger les mauvais enseignements qui étaient en train de naître ou qui étaient mis de l'avant par certaines personnes. Alors, je vous invite à tourner dans votre Bible. On va lire ensemble, mais je vais lire et suivez avec moi. Tite 1, versets 10 à 16. « Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit, « L'écris-toi, toujours menteur, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai. Ouch! C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. » Wow! OK, let's go, Benoît! Peut-être que la première chose qu'on se demande en regardant ça, c'est « OK, pourquoi Paul, il est aussi dur envers ces gens-là? Il ne mange pas ses mots, il y a des paroles très fortes, très dures à leur endroit. » Puis c'est un des avantages d'enseigner la Bible comme on le fait, c'est-à-dire de prendre un livre puis de l'enseigner au complet. Comme ça, les enseignants, ils peuvent pas s'esquiver des passages difficiles. On est obligé de les traiter, puis essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire puis comment ça s'applique à nous aujourd'hui. Parce que sinon, ça serait facile de rester dans juste les textes plus faciles, puis on serait en train de perdre une partie de la richesse de ce que Dieu nous a laissé à travers sa parole. Mais, OK, pourquoi s'en prendre comme ça aux faux enseignants? Peut-être qu'on se dit, est-ce que c'était vraiment si grave? Aujourd'hui, on dirait Paul est possiblement pas mal intolérant ici, envers ces gens-là. Je pense que c'est normal qu'on se pose ces questions-là. On ne vit pas dans une société monolithique où il n'y a qu'une culture, une religion ou foi. Au contraire, notre société est très multiculturelle. On aime plusieurs personnes que nous, on aime bien aussi dans notre vie, même si on ne partage pas les mêmes convictions. Puis on peut vivre en harmonie et avec chacun sa foi sans qu'on s'arrache les yeux. Mais là, on pourrait dire, Paul, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt accepter les croyances diverses de chacun? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on s'associe à une communauté ou lorsqu'on fait partie d'une communauté, cette communauté-là va éventuellement avoir, si, que ça soit officiel ou que ça soit non officiel, une raison d'être ou une mission ou un certain code de conduite. Et cependant, lorsque certaines personnes ne sont plus d'accord avec la raison d'être ou le code de conduite de ce groupe-là, de cette communauté, soit ils doivent revenir, soit ils vont devoir quitter. Par exemple, si si vous faites partie d'un groupe de soutien pour des gens qui luttent avec des dépendances, et des dépendances de toutes sortes, où on veut avoir une attitude de non-jugement envers les gens qui sont là, ils partagent leur lutte, et on veut être capable d'encourager. Et disons qu'il y a un des participants qui commence à dénigrer systématiquement les autres pour leurs échecs, et les traite de loser, puis qu'il serait bien mieux de se tirer une balle parce qu'ils sont sans espoir. Ce genre de comportement-là n'est pas acceptable. On va bien vite lui laisser savoir, OK, soit tu arrêtes, soit on va te demander de quitter. Parce que tu ne peux pas avoir de tels propos dans notre groupe. On est ici pour... On veut une attitude de non-jugement, on veut une attitude pour que tous soient capables de partager. Puis là, tu n'es pas en train de servir le bien commun du groupe et la raison pour laquelle les autres sont là. Dans un autre exemple, un auteur que j'apprécie bien, pasteur à New York, théologien, Timothy Keller, dans son livre « La raison est pour Dieu », il parle de ça, le fait que chaque communauté, dans le fond, même aussi ouverte soit-elle, va avoir certaines limites. C'est ce qui fait qu'on est une communauté. Il disait, par exemple, si quelqu'un qui fait partie du conseil d'un groupe de promotion des droits pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, et que cette personne-là, éventuellement, il fait partie du conseil, puis que là, il a une expérience religieuse, puis là, il dit, « Ah, je crois que pratiquer l'homosexualité, c'est un péché. » Puis que là, dans son groupe, il dit ça aux gens autour de lui. Bien, aussi ouvert que le groupe est, ils vont lui dire, « Bien, regarde, peut-être que tu n'es plus à bonne place maintenant. » Ou même si quelqu'un, par exemple un chrétien qui serait dans un groupe qui défend la famille traditionnelle, etc., puis que un de ses enfants fait un coming out homosexuel, puis il dit, « Ah, non, dans le fond, je pense que là, il n'y a plus de problème. C'est correct. » Mais, puis qu'il fait partie du conseil d'administration de ce groupe-là aussi. Donc, dans un cas comme dans l'autre, même si ces deux groupes-là cherchent à être ouverts, à faire du bien, éventuellement, si une personne dans un rôle de leadership est plus dans la même direction que les autres, aussi ouvert qu'on veut être, on ne peut pas être ouvert à tout. À un moment donné, on va dans une certaine direction où on n'y va pas. Donc, c'est pour ça, entre autres, on peut voir un peu la logique, là. C'est pour ça que Paul, qui est responsable des églises de Crète, de beaucoup d'églises, il y a des enseignements qui s'éloignent de la direction que Jésus avait donnée, puis il dit, là, vous allez dans la mauvaise direction, soit vous reprenez un peu la raison pour laquelle tout le monde se rencontre, soit on va vous demander d'aller ailleurs, parce que vous ne partagez plus notre vision commune, notre raison d'être, notre code de conduite qu'on a comme communauté. Et chaque communauté a ça, que ça soit officiel ou que ça soit pas officiel. Peut-être la seule chose où la seule entité où c'est pas le cas, c'est peut-être la famille. Mais même la famille, on vit toutes sortes de difficultés aussi. Peut-être plusieurs d'entre nous dans nos familles, des familles divisées, des familles où on se parle plus trop parce qu'il y a eu des conflits, toutes sortes de raisons. Mais Paul dit à Tite de reprendre des gens qui étaient en train de donner un enseignement qui n'était plus fidèle à ce que Jésus avait laissé à ses apôtres. Alors, la deuxième chose que je voudrais regarder, c'est qui sont ces faux enseignants? Quel genre de choses est-ce qu'ils enseignaient? Un peu partout à travers le Nouveau Testament, on voit à travers les lettres qu'il y a toutes sortes d'autres enseignements qui ressortaient dans les diverses églises. Par exemple, on voit dans l'épître de Paul aux Galates qu'il y a des gens qui disaient « Il faut que tous les chrétiens se fassent circoncire, comme les Juifs. Comme Dieu nous avait donné la circoncision, il faut que tout le monde se fasse circoncire. » Puis là, Paul, il reprend ça et dit « Non, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, l'entrée dans le peuple de Dieu, c'est par la foi en Jésus, parce que Jésus a fait pour nous. » Dans 1 Corinthiens 15, on voit qu'il y a certaines personnes qui disaient que la résurrection était déjà venue. Et Paul leur dit, non, si on n'espère pas encore la résurrection d'entre les morts, alors si Jésus n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection, alors on est misérable. Dans 1 Jean, on voit certaines personnes qui disaient que Jésus n'était pas vraiment venu dans la chair, mais en apparence seulement. Il n'était pas vraiment humain, il faisait juste apparaître humain. Alors ça, c'est tous des enseignements qui sortaient un peu partout et qui n'étaient pas dans l'enseignement que Jésus avait transmis à ses apôtres qu'on voit maintenant dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est question de ces choses-là dans Tite? On va regarder un petit peu. Certaines choses oui, certaines choses non. On n'a pas énormément d'informations. Mais on va regarder le texte un petit peu plus en détail qu'on vient de lire et les mots durs que Paul a pour les gens qui ont un faux enseignement. Alors, ce n'était pas juste des gens qui étaient dans l'Église et qui posaient des questions pour mieux comprendre. C'était des gens qui voulaient persuader les autres de leur divers points de vue. Alors, au verset 10, au commencement de notre texte, Paul dit « Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. » OK, les circoncis, ça, c'est les Juifs. Donc, le christianisme est né parmi les Juifs. Les douze apôtres étaient des Juifs. Les premiers chrétiens étaient à Jérusalem, ils étaient des Juifs. Mais là, ça s'est sorti. Les Grecs, les païens, les non-Juifs, et l'Évangile était pour tous. Mais là, il y en avait certains, surtout parmi les Juifs, qui avaient un genre d'enseignement non conforme. Puis que Paul dit qu'ils sont insoumis, des discoureurs creux. Ils aimaient se faire de grands discours pour peut-être pas dire grand-chose. Et aussi, ils étaient trompeurs. Quelques versets plus loin. Au verset 14, petite fenêtre dans ce qu'ils enseignaient, ça dit qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Des fables juives, peut-être des histoires par rapport aux patriarches, des histoires par rapport aux anges qui n'étaient pas dans la Torah, qui n'étaient pas dans la Bible inspirée de Dieu, et qu'ils ajoutaient toutes sortes d'autres choses, ou encore des commandements émis par des hommes, des choses qu'on rajoute par-dessus la Bible. Au chapitre 3, on a un autre deux petits versets qui nous donnent un petit peu d'informations sur ce qu'ils pouvaient faire. Au chapitre 3, les versets 9 et 10, Paul dit à Tite, « Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les car ils sont nuisibles et sans valeur. » Donc probablement que c'est ce genre de discours-là, ce genre de discussion-là, de division que les faux enseignants dans les églises de Crète apportaient. Et au verset 15, là, je reviens dans Tite 1 au verset 15, une des choses qu'ils devaient probablement enseigner, c'est qu'il y avait certains aliments qu'on avait le droit de manger et il y avait certains aliments qu'on n'avait pas le droit de manger. On peut déduire ça parce qu'au verset 15, Paul dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. » On voit dans le texte presque parallèle dans 1 Timothée 4. 1 Timothée, c'est deux livres avant Tite. Si vous reculez, là, c'est juste quelques pages. 1 Timothée 4, les versets 3 à 5. C'est probablement le même genre de courant. Paul dit, ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait... Une des façons que Dieu avait pris le peuple d'Israël hors d'Égypte et qu'il leur avait demandé d'être distinct des nations autour, c'était par certaines lois alimentaires. Il y avait des animaux qu'ils n'avaient pas le droit de manger et certains animaux qui étaient des animaux purs qu'ils pouvaient manger. Alors, Dieu avait donné ça à son peuple pour un temps, qu'il soit un peuple distinct des autres peuples, que les gens autour sachent qu'eux, ils adoraient un seul Dieu et qu'ils croyaient qu'il était le seul Dieu. L'Éternel. Mais déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des avertissements donnés par les prophètes contre une confiance excessive accordée aux actes de piété extérieurs. Donc le fait de manger la bonne chose, le fait de donner ta dîme de tous les trucs, le fait de faire bien tes sacrifices, le fait de tout faire les bonnes choses, de faire tes prières, puis de passer à côté de l'essentiel, de passer à côté de la miséricorde et la compassion. Et les prophètes sont, si vous lisez là, les prophètes de l'Ancien Testament, c'est une des grandes choses que Dieu reproche à son peuple, une piété extérieure quand leur cœur est loin de Dieu. Et quand ils continuent de profiter des autres, quand ils continuent de faire du mal à leurs prochains autour d'eux, d'être cupides, etc. Mais les lois alimentaires que Dieu avait données pour un temps au peuple d'Israël, maintenant étaient abolies. Et on voit que déjà Jésus avait commencé à montrer cela dans Matthieu 15, entre autres. Au verset 10, l'Évangile selon Matthieu, Jésus, Matthieu 15, 10, Jésus appela la foule à lui et dit, « Écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? » Jésus répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit, « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. » Écoutez ceci. « Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ça qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Alors déjà, par ce texte-là, par d'autres, Jésus annonçait que les restrictions alimentaires allaient être abolies. Et ça, ça a été confirmé dans les actes des apôtres. Et dans le concile de Jérusalem, ils se sont rencontrés, etc. Alors, tout ce que Dieu avait créé était bon à manger, était bon à consommer, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Et les faux enseignants en Crète qui obligeaient les gens ou qui leur disaient « Non, il ne faut pas que tu manges de porc ou il ne faut pas que ceci ou cela, à droite ou à gauche », le faisaient peut-être dans un désir d'être pieux, mais se détournaient de la vérité, ce faisant, et rajoutaient des commandements d'hommes. Et Jésus a été dur envers les pharisiens qui avaient rajouté de la loi par-dessus ce que Dieu avait dit. Et garde à nous de rajouter quoi que ce soit par-dessus la Bible, par-dessus la parole de Dieu. Une genre d'application qu'on pourrait faire pour nous, ce serait de mettre notre confiance dans certaines règles de conduite. Il y a des églises, pendant plusieurs années, on disait, « Ah, c'est bien, bien important, la façon que tu es un chrétien, c'est que tu fumes pas, tu bois pas, tu danses pas, puis tu joues pas aux cartes. » Donc ça, c'était les quatre choses très importantes. Pour être un chrétien, c'est comme ça que ça se démontrait. Puis, je pense que ça venait d'un bon désir, parce que ces choses-là étaient associées à tout un style de vie. Mais de faire de ces quatre choses-là peut-être le summum de la moralité personnelle, c'était pas mal limitatif. Parce qu'on peut respecter ces quatre choses-là, mais continuer à être imbu d'orgueil, continuer à manquer de compassion et se penser vraiment que, hey, qu'on est un bon Jack, Dieu il a vraiment bien fait de me sauver. J'en suis vraiment un bon, moi. Pas comme eux autres. Alors, on peut tous avoir un petit peu là, notre code de conduite à nous autres, qu'on identifie un peu le top 5 des choses à faire ou le top 5 des choses à ne pas faire. Puis, faut que tu atteignes ça. Puis, des fois, une fois que tu atteins ça, ah ben là, tu as atteint la sainteté. Maintenant, tu peux être tranquille. Et on peut oublier, par contre, tout ce qui se passe dans notre cœur. Le désir de vengeance, la jalousie, la... voyons, la convoitise. Convoiter ce que les autres ont, la convoitise sexuelle. Toutes des choses qui ne vont pas se manifester de façon extérieure, mais qui rongent notre âme de l'intérieur. Et que le Seigneur veut venir faire du ménage là-dedans, qu'il veut venir nous purifier de l'intérieur. Alors, je reviens à notre texte. Une des choses que Paul y fait pour parler des faux enseignants de Crète, c'est qu'il cite au verset 12 un de leurs propres prophètes. J'en avais parlé il y a deux semaines. Donc, cette citation-là est attribuée à un poète crétois qui s'appelle Épiménide. Épiménide qui était... On n'a pas ses écrits, sauf quelques citations faites par des gens à droite et à gauche, mais qui a dit ça à propos des Crétois. Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Alors, est-ce que Épiménide était prophète dans le sens qu'il était envoyé par Dieu pour, comme les prophètes de l'Ancien Testament? Non. Mais probablement que Paul utilise le terme de leur prophète parce que les Crétois considéraient Épiménide comme un grand poète et peut-être même qu'il avait accès aux oracles des dieux et donc que ses paroles étaient un peu prophétiques de ce que les dieux grecs voulaient donner aux Crétois. Puis, bon, Épiménide ne les a pas mangés non plus. Toujours menteurs, des méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Et souvent, on peut caricaturiser différentes sociétés, différentes ethnies, on met des tags dessus. Évidemment, ce n'est pas tout le monde dans cette communauté-là qui va présenter ces traits de caractère-là, mais probablement qu'il devait avoir une certaine, un fond de vérité là-dedans. Et Paul attribue ces paroles-là particulièrement à ceux qui sont en train d'imposer des nouvelles choses aux chrétiens de Corinthe et qui s'éloignent de la vérité. Aux chrétiens de Crète. On pourrait se demander, bon, mais peut-être qu'ils sont bien intentionnés, ces gens-là. Peut-être pourquoi est-ce que Paul est si dur avec eux? Mais une des choses que Paul mentionne, à la fin du verset 11, il dit, « Il bouleverse des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. » Alors, ils étaient là pour le cash. Ils essayaient probablement de se faire un petit groupe, des gens qui leur suivent. « Ah, ben là, moi, je suis ton enseignant, maintenant, il faut que tu me supportes, ta nourriture, ou peu importe. » Puis dans 1 Timothée 6:5 aussi, Paul parle à Timothée, il parle d'hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Ils veulent faire de l'argent sur le dos des autres en donnant de tels faux enseignements. Donc, ils sont là pour leur propre gain matériel. Pas pour rien que Paul appelle ça un gain honteux. Alors, qu'est-ce qui arrive à cause de ça? Bon, on vient de lire, il y a des familles entières qui sont bouleversées. Et en plus de ça, le comportement de ces faux enseignants n'est pas vraiment très reluisant. Au verset 16, je saute un peu partout, là, au verset 16, Paul dit, « Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. » C'est possible qu'ils avaient leurs exigences de vie, leur code de conduite, et à côté de ça, ils passaient à côté de l'amour, la compassion, la miséricorde. C'est possible, parce que Paul dit qu'ils sont incompétents pour la moindre œuvre bonne. Est-ce que Paul dit à titre de faire, en mâchant encore pas ses mots, il dit au verset 11, il faut leur fermer la bouche, il faut les faire taire. Au verset 13, il dit, reprends-les sévèrement. Et au chapitre 3, verset 10, ça dit, si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier, puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Quel est le résultat de tout ça? Est-ce que Paul est sur un power trip? Est-ce que Paul, il essaye de communiquer son power trip à Tite, dire « reprends contrôle ». On va les avoir, on va les jeter dehors. Paul, il dit au verset 13, Ce témoignage est bien vrai, parlant de la citation du poète crétois. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Reprends-les afin qu'ils aient une foi saine. Ce n'est pas pour les jeter dehors, mais pour que leur foi soit corrigée par la parole de Dieu, que leur foi soit instruite par la révélation de Dieu. Et si, après un premier et un second avertissement, ils ne suivaient pas l'enseignement fidèle, la saine doctrine, eh bien, à ce moment-là, éloigne de toi un tel homme, comme Paul dit à Tite. Puis c'était aussi pour protéger l'Église, protéger des gens, des jeunes chrétiens, des gens qui pouvaient être un peu plus vulnérables, que quelqu'un d'autre arrive dans leur maison, puis là, se met à leur enseigner des choses, puis en plus, il leur demande de l'argent. Alors, Paul et Tite devaient protéger l'Église. Donc, il y avait comme deux buts. Premièrement, c'était que les faux enseignants aient une foi saine, qu'ils puissent ensuite donner un bon enseignement, un enseignement fidèle à la parole. Puis deuxièmement, c'est pour protéger le restant de l'Église. Alors, j'aimerais nous amener sur une petite réflexion sur la vérité. Parce que c'est clair ici que pour Paul et pour Tite, la vérité est très importante. Au verset 14, Paul dit que ce sont des commandements, des fables juives, des commandements émis par les hommes qui se détournent de la vérité. Et Paul disait au tout début de sa lettre, au premier verset, qu'il, comme apôtre, il était chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Plusieurs aujourd'hui, plusieurs parmi nos amis, plusieurs parmi les gens qu'on côtoie, et peut-être certains d'entre vous, peuvent avoir l'impression que toutes les religions mènent ultimement à la même chose, au même Dieu, et qu'ainsi, on ne devrait pas mettre sa religion au-dessus des autres. Chacun sa vérité, tant qu'on ne fait pas de mal à qui que ce soit. Cependant, ça vaut la peine de pousser un peu cette réflexion-là. Est-ce qu'on peut avoir chacun sa vérité et que chacune des vérités soit vraie simultanément? Ça me semble qu'il y a un manque de cohérence ici. Par exemple, s'il y a des télévisions en bas, puis ici on dit, moi je dis, ah, la télévision est ouverte en ce moment, et quelqu'un d'autre dit, non, la télévision est fermée. La télévision est soit ouverte, est soit fermée. Elle ne peut pas être les deux en même temps. Ou, disons qu'il y a un mur, si je dis, ah, derrière le rideau, c'est la vitre, c'est dehors. Puis quelqu'un dit, non, derrière la vitre, derrière le rideau, c'est la mairie de Saint-Léonard. Puis, OK, bon, c'est un ou l'autre. On ouvre le rideau, ah, OK, non, c'est la vitre, c'est dehors. La mairie est de l'autre bord. Donc, la mairie est soit là et soit là. Elle ne peut pas être des deux côtés en même temps. Fait qu'on ne peut pas avoir deux vérités contraires qui soit simultanément vrai. Un des plus brillants théologiens du 20e siècle, C.S. Lewis, qui est celui qui a aussi écrit les Chroniques de Narnia, a dit dans son livre classique « Les fondements du christianisme », il a dit « Si tu es un chrétien, tu n'as pas besoin de croire que toutes les religions sont fausses sur toute la ligne. Si tu es un chrétien, tu es libre de penser que toutes ces religions, même les plus bizarres, contiennent au moins une parcelle de vérité. Mais, bien sûr, être chrétien signifie de penser qu'où le christianisme diffère des autres religions, le christianisme a raison et les autres ont tort. C'est comme un problème de mathématiques. Il n'y a qu'une seule bonne réponse à une somme et toutes les autres réponses sont fausses. Cependant, il y a des réponses fausses qui sont plus près de la bonne que les autres. Si on fait 10 fois 4, bon, là, on fait une multiplication, puis là, que vous faites un test, puis que là, 10 fois 4, puis que là, quelqu'un répond 40, ça, c'est la bonne réponse. 10 fois 4 n'égale pas 20. 10 fois 4, c'est toujours 40. Mais si quelqu'un dit 2892, ou si quelqu'un dit 50, alors celui qui a dit les deux réponses sont fausses, mais celui qui a dit 50 était plus proche de la vérité. La pensée postmoderne nous dit il n'y a pas de vérité absolue. On ne peut dire à personne qu'il a tort. Cependant, cette affirmation est une affirmation de vérité absolue. Si tu dis « il n'y a absolument aucune vérité absolue », c'est une affirmation absolue. Aussi, on dit « toutes les religions s'équivalent dans le fond, toutes les religions mènent à Dieu », on ne devrait pas dire aux gens qu'ils ont tort. Toutes les religions sont bonnes. Alors, les gens des différentes religions ne vont pas être d'accord avec ça. Dire, non, non, on s'entend bien, mais on est amis, mais je crois que ma religion est la vérité. Et lui, il croit que sa religion est la vérité. Et on se dit qu'on a tort, mais on s'aime bien. Puis toi, tu arrives, tu dis, « Ah non, vos religions sont vraies, sont tous les deux vraies. » Il dit, « Non, ils ne sont pas tous les deux vraies. » Puis ce genre d'affirmation de dire « toutes les religions mènent à Dieu », ça devient une affirmation religieuse. On dit « vous ne devez pas dire que vous avez tort, mais tu as tort de penser que ta religion est la seule vraie. » Donc, on est toujours, on ne s'en sort pas. La pensée postmoderne est incohérente à un certain moment. C'est comme si on se tire soi-même le tapis dans le dessous des pieds. On enlève notre propre base pour être capable de discuter. On ne peut pas sortir d'affirmations exclusives de vérité. On fait tous des affirmations au sujet de la vérité. La question doit être alors de les observer à la lumière de la réalité. Alors, on peut pas, toutes les religions ne peuvent pas être vraies en même temps. Par exemple. Et par rapport à la vérité, j'aimerais nous ramener à ce que Jésus a dit lui-même par rapport à la vérité. Une des affirmations... Jésus en a dit beaucoup, mais une des affirmations probablement les plus citées, parce que c'est une très importante que Jésus a dite. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, au verset 6, on voit cette affirmation que Jésus a faite. Il dit, il parle de lui-même à ce moment-là. Il est en train de dire qu'il est beaucoup plus qu'un grand enseignant. Je le connais par cœur, mais j'y tourne quand même. Thomas dit à Jésus, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Alors Jésus n'a pas dit, je suis un chemin qui mène à Dieu. Il a dit, je suis le chemin. Puis en plus, juste pour être certain qu'on avait bien compris ce que Jésus voulait dire, il dit, on ne vient au Père qu'en passant par moi, ou nul ne vient au Père que par moi. Alors Jésus dit qu'il est le seul chemin vers Dieu. Alors Jésus ne peut pas avoir raison en même temps que quelqu'un d'autre dit qu'il y a un autre chemin vers Dieu. Soit Jésus a raison, soit cette personne-là a raison, ou quelque chose d'autre. Mais Jésus ne s'est pas présenté comme une des nombreuses options vers Dieu. Jésus s'est présenté comme l'option exclusive qui mène à Dieu le Père. On pourrait se dire, est-ce que ce n'est pas un peu arrogant? Est-ce que ce n'est pas un peu un manque d'ouverture? Est-ce que ça ne mène pas à l'orgueil pour les chrétiens de dire, moi j'ai la vérité? Mais au cœur du message du christianisme, le message au cœur du christianisme est un destructeur d'orgueil parce qu'il affirme que personne n'est assez bon pour mériter la faveur de Dieu. Passage qu'on cite souvent dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23, dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et un peu plus tôt, il dit « il n'y a pas un juste, pas même un seul ». Il n'y a personne qui, sur la base de sa propre bonté, de sa propre intelligence, de sa propre bonne conduite, va être capable de mériter la faveur de Dieu. Un christianisme qui dit « sois une bonne personne, va à l'église, fais du ménage dans ta vie et Dieu va t'accepter », dans le fond, c'est pas le message du christianisme. Au cœur du message du christianisme, il y a le fait que nul ne peut se rendre à Dieu par lui-même, qu'il faut passer par Jésus. À cause du poids de nos péchés, à cause du fait que Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est majestueux, et nous sommes loin d'être parfaits. Nous faisons du mal les uns aux autres, nous nous faisons du mal à nous-mêmes, puis nous ne faisons pas de Dieu celui qui nous a créés pour être. Il nous a créés pour qu'on soit en relation parfaite avec lui, qu'on puisse l'adorer parce qu'il est ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Il nous a créés pour qu'on soit en relation avec lui, mais souvent, on veut faire notre propre chemin. Souvent, on veut vivre notre vie à notre façon. Souvent, on élève d'autres choses qu'on va dire. On ne va pas nécessairement dire, mais on va agir. Que ça, c'est plus important que toi, Dieu. Je veux faire ma vie à ma façon. À cause de ça, à cause de nos péchés, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et Paul se met dans le même bateau que tout le monde. Un petit peu plus tard, dans Tite, au chapitre 3, c'est un texte, on va l'étudier dans quelques semaines, mais je trouvais que ça valait la peine de lire ici, en même dans Tite. Paul, il dit, « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois... » Les mots durs, là. Paul, il est dit, « Moi, j'étais ça avant. » Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, justifiés par sa grâce ou déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Wow! Quel beau passage! Au cœur du message du christianisme, il y a le fait que nul d'entre nous n'est capable de mériter la faveur de Dieu, que nul d'entre nous ne peut accéder à la présence de Dieu par nos propres mérites. Ça prend les mérites d'un autre. Et le seul qui a les mérites pour rentrer au ciel, c'est Dieu lui-même qui est venu être un être humain. C'est Jésus le Christ, Jésus le Messie. La seule façon qu'on peut être accepté par Dieu, qu'on peut recevoir sa faveur, c'est si Dieu nous voit à travers Jésus. C'est si nos péchés ont été cloués à la croix du calvaire, où Jésus est mort à notre place. Et si nous, par la foi, en plaçant notre confiance en lui, en choisissant d'arrêter de vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour Jésus, alors la perfection de Jésus a été mise à notre compte. Nous demeurons pécheurs, mais par la foi, en Jésus qui seul peut nous racheter, qui seul peut ouvrir la porte du ciel. C'est par sa justice que nous pouvons être enfants de Dieu. C'est par le fait que Jésus a été parfait à notre place, par le fait que notre châtiment est tombé sur lui, qu'il y a eu un échange à la croix, que nous pouvons être acceptés auprès de Dieu. Au cœur du message du christianisme, il y a quelque chose qui détruit tout notre orgueil. Il y a quelque chose qui nous donne une profonde humilité. Nul d'entre nous ne mérite l'amour de Dieu. Nul d'entre nous ne mérite la faveur de Dieu. Mais il la donne gratuitement à ceux qui veulent croire en son Fils, qui veulent passer par lui pour accéder au Père. Comment le recevoir? Comme Jésus l'a dit au début de l'Évangile selon Marc, qu'on étudie ensemble à 9h30. En Marc 1, verset 15, « Repentez-vous ou changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à cette bonne nouvelle de qui Jésus est venu être pour nous, ce qu'il a accompli pour nous. » Et j'oubliais presque, Jésus n'est pas resté mort. Il n'est pas resté dans la tombe. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour prouver qu'il avait accepté son sacrifice à la croix. Et comme preuve, comme assurance que nous aussi, au jour que le Seigneur voudra, il va nous ressusciter pour être avec lui éternellement. Alors, en conclusion, comment se garder des faux enseignements dans notre Église ou de mauvaises influences à droite ou à gauche? Chacun d'entre nous a besoin de plonger nos regards dans la Bible, dans la parole de Dieu. On le fait ensemble le dimanche. C'est pour ça qu'on n'enseigne pas les nouvelles modes ou les nouveaux courants. Ici, à l'Église, on enseigne la Bible. Parce que la Bible, elle est sûre. Elle est certaine. Les nouveaux courants, les nouvelles bonnes idées, ça peut être bien. mais on a souvent des œillères, on est souvent aveugle à toutes sortes de choses. Puis, les nouveaux courants et les nouvelles bonnes idées n'ont pas été inspirés par l'Esprit de Dieu. Tandis que la Bible, que Dieu nous a laissée, nous avons cette assurance-là, que Dieu nous l'a laissée pour notre bien, qu'elle est vivante, qu'elle agit, que Dieu nous parle, comme notre sœur priait tantôt, que les brebis entendent la voix de Jésus, mais sa voix, on l'entend à travers sa parole, on l'entend à travers la Bible, qui nous a laissée. Chacun d'entre nous a besoin de plonger nos regards dans la Bible. Chacun d'entre nous, on a besoin de la lire. On a besoin d'y réfléchir. On a besoin de poser des questions. On a besoin de la mettre en pratique. De discuter ensemble, entre amis, en famille, de venir autour de la parole. On le vient comme Église, mais aussi dans nos relations, aussi à la maison, dans la famille. Chacun d'entre nous, dans un temps seul avec le Seigneur. Comment pourrons-nous éviter d'être entraîné à droite ou à gauche dans des faux courants? La seule façon, c'est de revenir, encore et toujours, à la certitude que Dieu nous a donnée, à la seule chose sûre qu'il nous a donnée, à sa parole, qui nous montre comment on peut être sauvé, qui nous montre quel genre de Dieu magnifique et glorieux il est, qui nous montre la grandeur de sa grâce et de sa compassion, qui nous montre comment Dieu nous conseil de vivre, il nous demande par obéissance de vivre pour son honneur et pour notre bien. Vous savez, les parents vont donner des directives à leurs enfants. Eh bien, il y a des choses que les enfants, ils vont à droite, à gauche, ils veulent toucher à tout. Un des rôles des parents, c'est de protéger les enfants. Et les enfants, comme enfants, des fois, nos parents nous ont mis des restrictions qu'on comprenait pas toujours, qui nous énervaient. Que quand on a grandi, on s'est rendu compte, ah, moi, je suis content que j'avais des parents qui ne m'ont pas laissé faire tout ce que je voulais. Mais évidemment, nos parents n'ont pas été parfaits. Nos parents ne sont pas parfaits. Si vous êtes parents ou vous le deviendrez un jour, vous ne serez pas parfaits. Mais Dieu est pour nous un Père parfait. Et ses instructions, ses commandements sont pour notre bien. Il ne nous a pas laissé ça pour notre malheur. Parce que ça lui fait plaisir de nous voir, pas avoir ce qu'on veut. Des fois, comme enfant, c'est une bonne chose de ne pas avoir ce qu'on veut. C'est pour notre bien. Alors que le Seigneur nous garde dans sa parole, que le Seigneur nous garde les yeux fixés vers Jésus, lui qui est la vérité incarnée, le seul chemin vers Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse.